106.9, Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Bernard Drainville.
Ouais, 7h53. Bien sûr, avec Bernard, on va parler de Justin Trudeau. Ça va de mal en pis pour M. Trudeau. Juste vous parler du magazine canadien-anglais Maclean's, qui n'y va pas de main morte dans sa critique de la gestion de Justin Trudeau. Publie une photo du premier ministre à la une de son édition du mois d'avril avec la mention en grosses lettres « The Imposter ».
L'imposteur.
Salut Bernard.
Salut Catherine.
Mais oui. Maclean's nous habitue à ça, hein?
Maclean's sont devenus beaucoup plus, percutants dans leurs manchettes parce que c'est plus ce que c'était, hein? Y a pas juste les médias francophones qui vivent une crise. Les médias du côté anglais, évidemment, en vivent aussi. Et Maclean's a dû, à un moment donné, se relancer là, parce que ça allait pas bien, le lectorat est à la baisse et tout le reste. Alors, ces dernières années, notamment sous la direction de Paul Wells, ils ont décidé là, de mettre pas mal plus de punch dans leur papier, puis notamment dans leur grand titre. Alors, de qualifier Trudeau d'imposteur, ça s'inscrit dans, là-dedans. Écoute, ça va de mal en pis parce que qu'est-ce que tu veux? Il perd ses femmes fortes.
Jane Philpott en particulier.
Alors, il faut dire qui elle est, parce que, évidemment, qu'est-ce que tu veux? Il faut suivre la politique, là, pas mal, pour savoir Philpott qui elle est. Regarde bien, c'est pas compliqué. Celle-là, la ministre qui a piloté la législation fédérale sur l'aide médicale à mourir, c'est Jane Philpott quand elle était ministre de la Santé. C'est elle aussi qui a piloté le projet de loi sur la légalisation du pot. Trudeau a fait confiance à Jane Philpott depuis qu'il est premier ministre en 2015. Il lui a donné des missions difficiles, des mandats importants. Il lui a fait confiance. Mm-hmm. Et dans la lettre qu'elle a rendue publique hier pour justifier sa décision, elle dit essentiellement, lui m'a fait confiance, mais moi, je ne lui fais plus confiance. C'est ça qui fait le plus mal dans cette lettre-là où elle dit notamment, je la cite, « La façon dont le gouvernement a géré le dossier SNC-Lavalin, m'a fait perdre confiance en lui. » Ben lui, c'est pas juste le gouvernement. Lui, c'est Justin Trudeau. Et Catherine, on s'en est parlé quand même une couple de fois d'SNC, toi puis moi, puis j'ai pas utilisé beaucoup le mot « crise ». Je l'ai pas utilisé du tout, parce que je trouve que le mot « crise », parfois, il est un peu galvaudé. Ouais. Tu sais, t'as 48 heures de mauvaise manchette, puis le gouvernement est en crise, puis tu sais... Mais là, franchement, après le départ de ces deux femmes fortes, Mme Wilson-Raybould, Mme Philpott, il a perdu son premier conseiller. Je pense qu'on peut parler maintenant d'une crise de leadership à la tête du gouvernement fédéral et du gouvernement canadien. Et une crise de leadership, ben, ça appelle... un test de leadership. Ça commande un test de leadership. Et là, c'est à Trudeau de faire preuve de ce leadership-là. Parce que depuis le début, franchement, il est pas bon. Il nous lance, point de presse après point de presse, des espèces de platitudes sans âme, une cassette, des espèces de réponses apprises par cœur. Et là, à un moment donné... Il va falloir qu'ils reprennent le contrôle de la situation. Et parce que là, il y a des décisions très importantes à prendre. Catherine, qu'est-ce que tu fais avec ces députés qui maintenant vont être dans son caucus, qui lui disent « On fait plus confiance à notre chef. On te fait plus confiance, toi, Justin. » Il va les avoir dans sa face, dans la salle du caucus. Est-ce que tu les gardes à l'intérieur?
Ben, c'est parce que c'était déjà déchirant. Tu te souviens, on en avait parlé ensemble la semaine dernière. On disait « Bon, il fait quoi? » Et là, il y en a deux. Puis deux, puis surtout, Mme Philpott, une grosse pointure. Elles ont sûrement de l'appui au caucus.
Bien, c'est ce que j'allais dire. Ils ne sont pas toutes seules. Parce qu'hier, dans la foulée de cette annonce-là, il y a une autre députée libérale qui est sortie. Elle s'appelle Célina Caesar Chavan. C'est une militante pour les droits des minorités. Et elle a dit, essentiellement, nous autres, les femmes, on fait les choses différemment. On se tient debout pour nos principes. Puis on quitte... quand nos valeurs sont compromises. En d'autres mots, elle a donné son appui à Philpott et à Wilson-Raybould. Et, bon, elle n'est pas ministre, elle est députée. Et elle a annoncé d'ailleurs qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. Mais tu fais quoi avec... Maintenant, tu en as au moins trois, là, qui publiquement là, disent là, t'sais, à Justin Trudeau, t'sais, ton leadership, là, dans le fond, là, on y croit plus. Et là, c'est parce que moi, j'ai été correspondant parlementaire à Ottawa de 1998 à 2001, et j'ai vu... au sein du Parti libéral du Canada, du temps de Jean Chrétien, l'aile Paul Martin. Okay. Il y avait une faction Paul Martin, des députés qui se tenaient ensemble, qui se mettaient en rapport de force parfois avec le premier ministre Chrétien. Et je suis en train de me demander si on n'est pas en train d'assister à ça, la naissance d'une espèce de contre-pouvoir, une espèce de faction qui peut-être est déjà dans l'après-Trudeau. Parce que, écoute, c'était fascinant hier, c'était fascinant, parce que elle démissionne, Mme Philpott, la ministre, et tu as Wilson Raybould, l'ancienne ministre, qui publie sur Twitter un tweet dans lequel elle dit « Je t'aime et puis on va continuer à faire des choses ensemble. » Puis elle l'appelle Madame comment, Mother Country, la mère du pays, la mère du Canada.
Ouais, okay.
Écoute, d'appeler quelqu'un la mère du Canada, moi, j'ai l'impression que Wilson Raybould voit en Philpott bien plus que juste une amie ou une collègue avec lesquelles ils ont travaillé sur le dossier du pot puis le dossier de l'aide médicale à mourir. Tu sais, il y a une espèce d'admiration dans ses propos, dans sa posture. Je serais pas étonné que ces femmes-là se disent « on va continuer à faire de la politique au Parti libéral » parce qu'elles ont déjà annoncé qu'elles veulent être à nouveau candidates. On verra ce que Justin Trudeau en pense. Mais moi, je pense que ces femmes-là, faudrait pas, en d'autres mots, faudrait pas s'étonner, Catherine, qu'on les retrouve ensemble à un moment donné dans l'après-Trudeau.
Okay.
Tu vois, ça se peut que ça soit ça.
Mais actuellement, tu sais, toi qui es un peu plugué partout, là, selon toi, ce que t'entends... Parce que, première, deux questions. Est-ce que c'est un hasard que ce soit seulement des femmes qui sortent? Est-ce que tu penses qu'il y en a d'autres qui sont sur le point de faire la même chose? Nos ministres au Québec, là...
Les ministres au Québec, ceux à qui je parle, là, ils sont furieux après Wilson Raybould.
Ah oui?
Et ils sont furieux après
Est-ce que ça inclut François-Philippe Champagne?
Ah, François-Philippe Champagne, c'est un méchant trooper, là. C'est encore lui qu'ils envoient au bat à matin pour faire le tour des médias.
Ben, vous êtes chanceux parce que nous, encore une fois, ce matin, notre demande est refusée. Fait que
ben, là,
c'est triste, mais bon, je commence à
continue à insister parce que
il en donne
des entrevues, mais c'est lui qui va au bat, là, présentement, pour défendre Trudeau puis pour défendre le gouvernement. Il est très important, François-Philippe Champagne, dans ce conseil des ministres de Justin Trudeau. Et ils sont pas contents, les ministres du Québec, qu'est-ce que tu veux, eux autres, ils ont le sentiment de s'être battus pour la bonne raison. Ils se sont battus pour des emplois puis pour une entreprise québécoise et canadienne, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. La majorité des emplois d'SNC, ils ne sont pas juste au Québec, ils sont à l'extérieur du Québec.
Oui,
t'as à peu près 4 000 emplois, à peu près, non, pas 4 000, t'as à peu près 40% des 9 000 emplois qui sont au Québec, mais le reste des emplois, ils sont en Ontario, ils sont en Colombie-Britannique, ils sont un peu partout dans le pays. Fait que quand Justin Trudeau, puis son équipe, puis François-Philippe Champagne et les autres défendent l'idée qu'un accord de réparation doit à tout le moins être envisagé, bien, ils se battent pas juste pour le Québec, ils se battent aussi pour le Canada, comprends?
Bernard?
Ils sont frustrés de voir Wilson Raybould, puis maintenant Philpott et d'autres, dire essentiellement, vous vous battez pour une entreprise corrompue, puis à mots plus ou moins couverts, bien, corrompue, puis du Québec et tout, tu comprends?
Bernard, me permets-tu de t'interrompre? Parce que Claude est rentré en studio, on parlait de François-Philippe Champagne, il y a quelque chose qui circule sur Twitter depuis quoi? À peu près une quinzaine de minutes?
En fait, c'est sur son compte Facebook. François-Philippe Champagne, depuis à peu près 7h45, il a publié ce message-là, disant, et je cite, « Certaines personnes ont avancé plus tôt cette semaine que je pourrais être candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. » Fin de la citation. C'est François-Philippe Champagne qui écrit ce message-là sur Facebook, mais lui réitère qu'il veut rester sur la scène fédérale, qu'il aura son investiture dans Saint-Maurice-Champlain le 17 avril prochain.
C'est moi qui ai mis ça au jeu hier.
OK, ah, bon.
Ben oui, ça vient de moi. Il vient de me répondre. C'est drôle parce que je viens de le croiser dans les corridors. Il était bien fin avec moi. Il ne m'a pas dit qu'il allait publier un Facebook par rapport à mes propos d'hier.
Fait que toi, tu as dit hier que la rumeur circulait?
Ce que j'ai dit hier, c'est qu'il y a des militants libéraux du Québec qui ne sont pas satisfaits des deux candidatures qui se présentent présentement, c'est-à-dire Dominique Anglade et André Fortin pour la chefferie, pour prendre la place à Couillard. Et notamment des militants des régions. Ils trouvent que Anglade a fait trop Montréal, puis ils trouvent que Fortin, il fait trop Ottawa. Il fait trop politique fédérale, parce que c'est là qu'il a commencé. Puis certains disent qu'il est plus Canadien que Québécois. Il est pas assez nationaliste. Alors que tu as un paquet de militants libéraux des régions, notamment de la région de Québec, qui pensaient que Sébastien Proulx serait leur poulain. Mais Sébastien Proulx a décidé de pas y aller. Fait qu'ils cherchent un poulain. Et dans les noms qui circulent, il y a François-Philippe Champagne. Maintenant, pas François-Philippe Champagne maintenant. François-Philippe Champagne, si Trudeau se faisait battre aux élections et François-Philippe Champagne n'était plus ministre nécessairement, il y en a qui disent peut-être que l'automne prochain, il y a des anciens ministres qui vont être disponibles. Tu comprends? Et qu'on pourrait peut-être recruter pour la chefferie. Alors, c'est ce que j'ai dit hier. J'ai jamais dit qu'il n'était pas question qu'il se représente aux élections.
Okay,
ce que j'ai dit hier, c'est si Trudeau est battu, Champagne perd son poste de ministre, je pense pas qu'il va avoir de problème à se faire élire comme député, je serais bien surpris. Alors là, est-ce qu'il pourrait, s'il n'est plus au gouvernement, parce que c'est, mettons, les conservateurs qui ont pris le pouvoir, est-ce qu'il pourrait, à ce moment-là, se tourner vers la politique québécoise? Ce matin, il dit, si j'ai bien compris, j'ai l'intention de me représenter.
C'est ça.
Ben, jamais personne qui a dit le contraire.
Ah, okay, c'est bon,
mais est-ce qu'il dit, si jamais on se fait battre, je dis non à toute approche pour... Non, je pense pas qu'il dise ça.
Non, il dit ça, Claude?
Non, c'est dans son message Facebook, ça dit qu'il n'a pas l'intention de se présenter pour l'instant parce qu'il est au fédéral pour les prochaines élections.
Il y a personne qui dit le contraire, tu comprends?
C'est ça.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il veut prévenir, je pense, plutôt que guérir. Alors, on referme cette parenthèse. Madame Philpott, donc, ça fait beaucoup de tort à Trudeau. Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour reprendre le contrôle de la situation? Moi, jusqu'à hier, j'étais d'avis qu'il fallait qu'il expulse Wilson-Raybould avant que le cancer s'étende. Mais là, Wilson-Raybould, Philpott, peut-être une troisième députée, peut-être d'autres qui pourraient éventuellement partager le même point de vue. Ça devient de plus en plus difficile pour Trudeau d'expulser. Et donc, je me demande s'il ne devra pas se résigner à composer avec une espèce d'aile, une faction à l'intérieur de son propre caucus qui est plus ou moins en contestation par rapport à lui, par rapport à son leadership. Ça, c'est... À mon avis, on est pas mal rendu là. Puis, qu'est-ce que tu veux? Demain, c'est Botts,
ben, c'est
l'ancien numéro un, conseiller numéro un de Trudeau, qui va témoigner. Je vais te dire, je dis toujours, Catherine, en politique, c'est un mélange de conviction puis de calcul. Il y a toujours les deux. La question est de savoir quel est le pourcentage de l'un par rapport à l'autre. Dans ce cas-ci, je pense que Philpott, il y a beaucoup de convictions. Je pense qu'elle y va vraiment par principe. Elle y va aussi par amitié, parce qu'elle est très, très proche de Wilson-Raybould. Mais le calcul aussi, c'est... Quand on étudie les études stratégiques, il y a un concept qui s'appelle « preemptive strike », c'est-à-dire que tu frappes avant d'être frappé. Mm-hmm. Je pense que Mme Raybould, en sortant hier... pas Mme Raybould, Mme Philpott, en sortant hier, elle a frappé avant que Botts vienne frapper demain dans son témoignage,
exactement.
Tu vois?
C'est OK. Hey, un petit mot sur... Parce que ça brasse au Parti libéral du Canada, au Parti québécois aussi...
Bien, ça brasse au PQ parce que là, ce que je vais te résumer, c'est... écoute, je dois être rendu, je ne sais pas, moi, une quinzaine, une vingtaine d'heures de discussion. J'essaie de savoir ce qui se passe au PQ.
Ah?
Et la grande question, dans le fond, je vais te résumer ça ainsi. La question que beaucoup, beaucoup de péquistes se posent présentement, c'est est-ce que le Parti québécois peut être sauvé? Est-ce que la marque de commerce Parti québécois est morte ou, à tout le moins, sous respirateur artificiel? Puis si elle est sous respirateur artificiel... Il faut décider si on la débranche ou si on essaye de la ranimer. Et là, tu vois, chez les péquistes, l'idée qui circule, c'est de refonder le mouvement souverainiste. Ça, c'est l'idée de Jean-Martin Hossan, là, qui l'a exprimé il y a déjà plusieurs années de ça. Ça veut dire que tu ramasses les souverainistes dans une grande salle, puis tu refondes un parti, un nouveau parti qui serait un parti indépendantiste, qui serait consacré à faire l'indépendance, pas à prendre le pouvoir, l'indépendance.
Okay.
Bon, bien, évidemment, pour faire l'indépendance, il faut que tu prennes le pouvoir, mais l'idée étant, tu es élu là-dessus, puis si tu es élu, t'as fait.
T'as
tu sais, tu ne vas pas là pour gouverner.
C'est ça, tu fais pas ça dans trois mandats. Là,
non, voilà, okay. voilà. Et cette idée de refondation, elle est partagée par beaucoup de gens, notamment par Catherine Fournier, la députée de Marie-Victorin. Elle pense qu'il faut l'évaluer. Et elle l'a évoqué ouvertement dans des discussions avec d'autres députés. Elle a évoqué ouvertement la possibilité de refonder le mouvement souverainiste. Ce qui veut dire, à terme, dans le fond, partir un nouveau parti. Ça veut dire essentiellement dire aux péquistes, bien, vous vous emmenez dans un nouveau parti, puis le PQ disparaît, là. C'est ça que ça veut dire.
Ça ne doit pas faire l'unanimité certaine.
Ben non. Mais écoute, mais c'est allé quand même assez loin parce qu'il y a des péquistes qui ont exprimé la crainte que si jamais elle quittait le caucus du PQ pour aller se consacrer donc à la promotion de cette idée de refondation, à ce moment-là, les péquistes tombent à neuf. Ils sont 10 députés. Et en tombant à neuf, à ce moment-là, ils perdraient leur statut de deuxième opposition parce que Québec solidaire a 10 députés.
Okay.
Alors, les conséquences d'une éventuelle décision de la part de la députée Fournier de militer pour l'idée de refondation du mouvement en dehors du PQ, ça a fait beaucoup jaser. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Dans son entourage, moi, ce qu'on me dit, là, c'est, on me dit, écoute, elle n'a pas de projet de refondation à court terme. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait des appels.
Oui, j'imagine.
J'ai l'impression que je les ai peut-être un peu refroidis, là. Alors, elle dit, dans son entourage, on me dit, il n'y a pas de projet de refondation. En même temps, on me confirme que toutes les options sont sur la table et que, oui, l'idée de refondation est intéressante. Fait que, tu sais, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Où est-ce que les pro-refondations s'en vont avec ça? C'est une bonne question.
Ouais.
Mais chose certaine, t'as des péquistes qui sont là-dedans. T'en as d'autres qui disent, bien, peut-être qu'on n'est pas obligé de repartir un nouveau parti, mais il va falloir, remettre en question puis reconnaître les erreurs du passé. Par exemple, Nicolas Marceau, l'ancien député ministre, lui, il est de ceux qui pensent que la convergence avec la gauche, avec Québec solidaire, ça a été une immense erreur.
Ah ouais.
Il faudrait que le Parti québécois dise que ça a été une immense erreur parce qu'on a, dit-il, marginalisé le Parti québécois en poussant le parti vers la gauche ou même la gauche radicale. On s'est éloigné de la majorité des Québécois. Mais Véronique Yvon, qui a piloté le dossier de la convergence, les négociations avec Québec solidaire, penses-tu, Catherine, qu'elle est prête à reconnaître que ça a été une erreur, la convergence? Tu comprends? Puis il y en a même qui disent que Véronique Yvon, qui va devoir décider à un moment donné si ça se présente au leadership ou pas,
ouais,
pense encore que l'avenir du mouvement passe par la convergence, malgré le fait que QS leur a donné une taloche, tu sais,
Mais ton feeling pour Véronique Yvon en terminant, elle se lance ou pas?
Moi, je pense qu'elle n'a pas le choix.
Elle n'a pas le choix, OK.
Je pense qu'elle n'a pas le choix.
Okay,
mais elle a gros ses épaules.
Ouais, je le sais.
Je suis pas sûr que ça y tente, Catherine.
Ah, okay.
Tu comprends? Je suis pas sûr que ça y tente, mais je pense qu'elle n'a pas le choix parce que si elle n'y va pas, elle va décevoir trop de gens.
Mais en même temps,
je pense qu'elle mesure très bien la hauteur de la montagne qu'elle a à monter et les décisions qu'elle a à prendre, notamment sur toute cette question de la refondation puis du renouveau du PQ. Ils vont avoir un conseil national à la fin mars.
Ouais.
Et ce qu'on me dit, moi, c'est que la direction actuelle du PQ va proposer un congrès spécial. Il y en a juste eu un dans l'histoire du PQ, un congrès spécial, c'est quand René Lévesque a voulu aller vers le beau risque,
ouais,
a essayé le pari du renouvellement du fédéralisme, ça a fait éclater son parti. Là, il y aurait un congrès spécial, il proposerait un congrès spécial dans lequel il proposerait d'adopter un programme qui tiendrait essentiellement sur deux pages. Ça veut dire un programme qui dit essentiellement on est là pour faire l'indépendance. Plus de débat gauche-droite, plus de programme de gouvernement. Si vous lisez le PQ, on est là pour faire l'indépendance. Mais la question que je me pose, je te la pose en terminant, Catherine, un parti comme celui-là, un Parti québécois qui ne vise qu'à faire l'indépendance, qui ne se concentre que là-dessus, est-ce qu'il ne se condamne pas à encore plus de marginalité? Est-ce qu'il ne se condamne pas, dans le fond, à redevenir un mouvement qui ferait plus élire de députés parce que ça, tu sais, je veux dire, tu sais, il y a combien de gens dans combien de comtés du Québec là, qui seraient prêts, mettons, à voter pour quelqu'un qui dit, moi, tout ce dont je vais m'occuper, c'est de souveraineté puis d'indépendance.
Poser la question, c'est un peu y répondre. Hey Bernard, on se laisse là-dessus, on s'en parle jeudi.
Merci Catherine.
Salut, bye bye.
Salut,
Bernard Drainville. Tous les mardis, jeudi, 7h50. Vous le prenez également à 14h dans Drainville, PM. PM, oui, c'est ce que je voulais dire.